Autrement, eh bien, ce matin, je vous invite à aller à la rencontre d'un adolescent, un jeune adolescent, et nous allons aller à sa rencontre. Cet adolescent, vous le connaissez, il s'agit de Daniel. Et nous allons donc faire sa connaissance au début de son histoire, au chapitre numéro 1, donc du livre de Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspinaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'un qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après tout ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva pas un comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Aujourd'hui, avec la mondialisation, eh bien, la cuisine s'est internationalisée. Aujourd'hui, il est réducteur de dire que les Espagnols sont des mangeurs de paella, les Italiens sont des fous de pâtes, que les Chinois sont les spécialistes cantonais, les Américains celui de la malbouffe, et quant aux Français, eh bien, des mangeurs de grenouilles et d'escargots de Bourgogne. Non, aujourd'hui, nous sommes prêts à tout goûter, à tout manger. La cuisine du monde entier, en tout cas dans nos pays, s'invite à notre table. Ainsi, on peut très bien commencer notre semaine en mangeant une bonne choucroute avec plein de lard et de saucisses. Ensuite, nous pouvons enchaîner le mardi avec, par exemple, des pâtes à la carbonara, le mercredi, des fajitas, le jeudi, pourquoi pas une bonne paella, le vendredi, eh bien, manger un bon riz cantonné, le samedi, un bon couscous, et le dimanche, finir avec une bonne crise de foie. Mais pour Daniel, la question du repas avait un caractère très particulier dans la situation où il était. Devant le désir de Nebuchadnezzar de voir ses jeunes recrues manger des mets de sa table et boire de son vin, eh bien Daniel ne s'est pas laissé tenter à tout goûter, à tout manger. Non, pour lui c'était impensable. Et il le manifeste très clairement au chef des eunuques qui est alors son responsable. Et en survolant ce chapitre, nous allons tâcher de voir comment et pourquoi Daniel a pris une telle position. Et nous verrons aussi les enseignements et bien que son attitude peut nous apporter. Jérusalem va connaître 3 déportations. Et de ces 3 déportations, et bien Daniel et ses amis vont faire partie de la première. Leur vie vient de basculer subitement. Eux, qui font partie de la fine fleur de la société juive de l'époque, jeunes talents en herbe, ils deviennent prisonniers de guerre, appelés à marcher 120 kilomètres jusqu'à Babylone, appelée la Porte des Dieux. C'était la plus célèbre des cités de l'Antiquité. Nebuchadnezzar en avait fait en effet une cité, un empire immense, étant. Tout en elle dénotait un orgueil royal et incommensurable. Rien, moi et rien que moi, dira Ésaïe au chapitre 47, et cela pourrait être la devise de cette ville. Le choix du nom de cette ville rappelle d'ailleurs Babel. Il est le reflet de cette vanité babylonienne, à faire de cette cité le symbole même d'une vie consacrée à la gloire et au culte de l'homme, quasiment divinisé et défiant Dieu. Dans la vie des Babyloniens, l'idolâtrie jouait un grand rôle, et ce sont ainsi des mages, des astrologues ou des enchanteurs qui conseillaient le roi. C'est dans une telle cité que ces adolescents juifs, encore bien fragiles a priori, s'apprêtent à entrer. Cette métropole n'est-elle pas, à bien des égards, l'image de notre monde d'aujourd'hui ? Comme celui d'hier. C'est dans une ambiance similaire à celle que Daniel et ses amis découvraient que nous sommes appelés à vivre à notre façon, contemporaine. Et si certaines choses ne sont pas du tout les mêmes, si notre monde ne fonctionne pas du tout comme celui de Babylone, il n'en demeure moins que l'orgueil, la corruption, l'occultisme de Babylone sont toujours présents comme principes élémentaires et destructeurs de notre monde. Dans ce monde toujours plus centré sur Dieu, toujours plus centré sur l'homme et prompt à rejeter Dieu, comme à l'époque de Daniel, eh bien le Seigneur nous envoie, comme ses témoins et comme ses ambassadeurs. Comme eux, nous sommes de race royale, des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes exilés, déracinés, déportés, loin de notre patrie céleste. Mais notre statut de résident ne doit pas nous faire oublier que nous sommes appelés à nous impliquer dans ce monde et que nous avons une mission à remplir. Comme Babylone avec Daniel et ses amis, eh bien le système de pensée de notre monde cherche à nous assimiler, à nous naturaliser. Mais même si parfois nous devons subir des choses qu'on nous impose, cela ne doit pas nous faire oublier qui nous sommes et en qui nous plaçons notre foi. Pour que le moment venu, eh bien, nous puissions le rappeler à ceux qui veulent nous dominer. Ainsi, Daniel et ses amis sont arrivés à Babylone. Épuisés après une longue marche, encore sous le choc de la séparation et de l'exil, eh bien, ils doivent maintenant subir la suite de leur reformatage. Nebuchadnezzar veut en effet les dépersonnaliser d'une certaine façon pour les façonner à son idée. C'est un véritable lavage de cerveau, en quelque sorte, qu'ils vont subir sur le plan moral, sur le plan spirituel, religieux et d'abord identitaire. Le roi veut changer leur nom, qui, par les syllabes « El » et « Ya », rappelle les choix spirituels de leurs parents et leur attachement à Dieu. Daniel signifie ainsi « Dieu est mon juge ». Anania, « Dieu a fait grâce ». Michaël, « qui est comme Dieu ». Et Azaria, Yahvé a secouru. Mais les nouveaux noms qu'ils reçoivent font référence à des divinités adorées par les Babyloniens. Le roi cherche ainsi à les convertir subtilement. Après avoir changé leur nom, ils sont inscrits à l'université de Babylone, où beaucoup de matières sont enseignées, notamment des matières sensibles comme l'astrologie ou la magie. D'une manière générale, on désire ainsi qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici pour se calquer dans le nouveau moule idéologique de leur pays adoptif. Ainsi, au sein de la première grande tempête de leur vie, où ils sont vulnérables et seuls, loin de chez eux, il leur est proposé en plus un poste de haut rang. Et pour des adolescents en quête de sécurité, de stabilité, de repères, eh bien l'ambition et le pouvoir peuvent devenir une grande tentation. Et les défis devant lesquels Daniel et ses amis se trouvent sont énormes. Mais ils le sont tout autant pour nous aujourd'hui. Sans tomber dans la paranoïa ou la métaphore facile, nous pouvons néanmoins voir dans le système de pensée moderne de notre monde le même rouleau compresseur. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où l'identité chrétienne est de plus en plus en berne, la télé, Internet, les jeux vidéo, certains enseignements, même parfois dans les écoles, cherchent à formater nos jeunes dans des moules, profitant d'autant plus de ces temps de crise identitaire, économique, idéologique, religieux, où ils sont en quête d'avenir et d'espérance dans un monde, il faut bien le dire, qui est désenchanté. Il nous faut reconnaître que nos jeunes et nos enfants, comme nous-mêmes, sommes ainsi dans une position délicate. Beaucoup de tentations sous la pression mondaine se bousculent dans notre cœur, comme dans celui d'ailleurs de Daniel et de ses amis. Comment vont-ils réagir dans un tel contexte? Alors que tout semble indiquer que l'empire babylonien va engloutir Daniel, l'adolescent fragile, pour n'en faire qu'une bouchée, eh bien Daniel prend une position surprenante de maturité pour son âge. Si l'enjeu qui nous est conté nous paraît dérisoire à nous, occidentaux, aujourd'hui, question de repas, de manger, de boire, eh bien pour Daniel, il ne l'était pas du tout. Et plusieurs éléments sont à prendre en compte pour nous replacer à sa place. Dans la loi, d'abord, le juif ne devait pas manger de viande qui n'était été saignée au préalable. Il était aussi interdit de manger des animaux impurs. Or, à Babylone, le porc était un des principales viandes mangées, et le cheval également était très apprécié. Les viandes étaient chargées spirituellement parce qu'elles étaient souvent consacrées aux idoles, et ces viandes étaient offertes en même temps avec une libation de vin qui était offerte à la divinité. Dans la mentalité orientale, d'autre part, pour partager un repas, revient souvent à s'engager en amitié ou bien à faire alliance. Celui qui s'engageait ainsi reconnaissait quelque part qu'il choisissait d'être loyal envers le roi. Enfin, partager un repas à la cour royale amenait à être immergé dans la corruption et dans la dépravation. Le livre d'Esther, ou bien encore plus loin, le chapitre 5 de ce même livre de Daniel, eh bien, nous montre des repas où l'ivrognerie, l'immoralité et les stratégies politiques sont au cœur de ces repas. Mais, d'un côté, Daniel avait à peser toutes ces choses, et de l'autre côté, en même temps, en échange du couvert, eh bien, il pouvait devenir un des personnages les plus importants du pays, un personnage de premier plan. À son âge, vu le contexte, le choix n'était pas si évident. Face à cette situation, Daniel et ses amis auraient pu ainsi avoir différentes attitudes. Par exemple, ils auraient pu renier leur foi en Dieu. Ils auraient pu se laisser impressionner par l'empire babylonien, penser que leur Dieu est démodé, dépassé, et se laisser séduire par un nouveau style de vie. Mais leur foi n'est pas apparemment une simple croyance superficielle et variable dans le temps. C'est une confiance en quelqu'un. Ce n'est pas juste de la religiosité agrémentée de sentiments volatiles en fonction des circonstances. Non, non. Leur foi, c'est du solide. Ils n'ont pas honte de leur Dieu et de lui appartenir. Et même s'ils sont dans le camp dominé, de ceux qui sont en minorité, eh bien, ils ne sont pas prêts à se plier à une majorité injuste. Une autre attitude pourrait consister à sombrer dans le défaitisme et dans la passivité. Cependant, rien n'indique dans leur attitude des regrets ou plus même de la résignation. Ils ne se laissent pas aller, ils ne s'apitoient pas sur eux-mêmes et ils n'entretiennent pas non plus la nostalgie passée, ce que nous pouvons défaire. Pas d'angoisse, pas de fatalisme, mais une réaction courageuse de jeunes gens qui ne veulent pas subir ce qu'ils vivent. Ils pourraient aussi collaborer avec empressement, jouer les lèche-bottes. Ils pourraient choisir de tout sacrifier pour monter les échelons de la société babylonienne sans remords et avec opportunisme, mais non. Ils pourraient aussi se placer en position d'attente. Et ça, c'est plus subtil. En pensant que Babylone, par exemple, est une entrave pour servir Dieu. Ils pourraient remettre ainsi à des temps plus favorables leurs projets éventuels d'œuvrer pour Dieu et de témoigner. Or, en imaginant qu'ils se seraient dit « Eh bien, on va attendre que notre exil soit terminé pour nous lever et servir Dieu », eh bien, cet exil, il ne s'est jamais fini. Et donc, s'ils avaient attendu la fin de leur exil, ils n'auraient jamais servi Dieu. Et cela doit nous faire réfléchir quant à nous-mêmes. Parce que, bien souvent, nous reportons le moment pour nous engager pour Dieu, pour servir Dieu. Nous pensons que nous devons être comme ceci ou comme cela, que nous devons être parfaits. Tant que je ne suis pas ça, que je ne suis pas arrivé à faire ci, que je ne suis pas arrivé à être comme ça, eh bien, je ne servirai pas Dieu. Eh bien, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut réfléchir pour peut-être s'engager. Demain, peut-être, il sera trop tard. Nous voyons ainsi que Daniel et ses amis ont accepté la situation nouvelle qui leur était imposée en ayant à cœur de rester fidèles à Dieu. Et nous, comment est-ce que nous aurions réagi à leur place ? Mieux, comment réagissons-nous en tant que disciples de Christ dans un monde qui ressemble étrangement au leur ? Quel choix faisons-nous en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'église ou en tant que famille d'église ? Je citerai John MacArthur dans son livre « Spiritualité en crise ». Il pose cette question comme un cri. Où sont donc aujourd'hui les femmes et les hommes qui ont le courage de se lever seuls ? L'Église contemporaine a abandonné l'attitude de l'affrontement. Au lieu de renverser la sagesse du monde au moyen de la vérité révélée, bon nombre de chrétiens sont aujourd'hui obsédés par la recherche de terrains d'entente. L'objectif est devenu l'intégration plutôt que l'affrontement. Or, plus l'Église absorbe les valeurs et la culture du monde, plus elle perd sa capacité à faire la différence entre le bien et le mal. Que va-t-il advenir de l'Église si tout le monde s'engage sur le chemin glissant de l'opinion générale ? La qualité de la réaction et de la résolution de Daniel nous amène ainsi à nous demander comment et pourquoi il l'a eu. Ces quatre adolescents, encore à l'aube de leur vie, loin d'être désorientés, font preuve donc d'une stabilité et d'une fermeté formidable, parce que, tout simplement, la vie de chacun d'eux est bâtie sur un fondement solide. Ce fondement solide est à rechercher, en fait, dans l'enfance et dans la jeunesse de Daniel, à l'époque où régnait le roi Josias, dans le royaume de Juda. Alors faisons encore un pas en arrière dans le passé. Josias est devenu roi en Juda, dans le royaume de Juda, après un grand-père, Manassé, qui a régné pendant 55 ans dans un des climats les plus idolâtres et les plus corrompus qu'Israël ait pu connaître. C'était tellement grave la situation dans laquelle il avait plongé le pays que, après ça, Dieu changea d'avis sur l'attitude qu'il aurait vis-à-vis du royaume de Juda. Mais, après avoir connu l'exil à Babylone, Manassé va revenir ensuite en Juda et il va se repentir un petit peu et sa vie terminera mieux qu'elle n'avait commencé, si on peut dire. Son fils, le père de Josias, lui, va régner seulement 2 ans, et il va être assassiné par ses serviteurs. Et c'est ainsi sur un trône ensanglanté et corrompu, et bien que Josias va s'asseoir alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Quand il va s'asseoir dessus, il doit repenser certainement à ce grand-père qui a plongé le pays dans la corruption, puis qui s'est repenti, ainsi qu'à son père qui n'a que 2 ans à la tête du pays. Devenu jeune homme, il va réfléchir, il va comprendre que l'obéissance à Dieu seul est une garantie pour son bonheur et celui de son peuple. Il va alors entreprendre de grandes réformes. Il va rénover le temple et en faisant ces rénovations, il va trouver dans les murs du temple le livre de la loi. Alors il va se mettre à lire ce livre de la loi. Et en lisant ce livre de la loi, il va être bouleversé, complètement anéanti. Il va alors s'adresser à Dieu. Il va plaider coupable, il va porter le deuil et il va consulter Dieu. Alors Dieu va lui accorder un sursis quant à son jugement sur Judas. Assuré de la miséricorde de Dieu, eh bien Josias va alors repartir de plus belle dans ses réformes et il va tenter de faire disparaître toute trace d'idolâtrie dans le pays. Il va même aller célébrer la Pâque, ce qui n'était pas arrivé depuis un temps faramineux dans le pays. Et si Daniel et ses amis étaient le fruit du réveil suscité par Josias ? Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, pense qu'ils étaient parents de Sédécias, dernier roi de Juda déporté à Babylone. Ils ont donc très probablement vécu, selon lui, leur enfance étant de race royale ou de famille noble dans l'atmosphère royale où Josias régnait encore. Et la consécration à Dieu de Josias, sa confiance ferme et sa fidélité éprouvée ont dû marquer profondément ceux qui l'entouraient et vivaient à la cour. Josias contrastait tant avec les quelques rois qui lui succédèrent fugacement que Daniel et ses amis ont pu voir la différence. Ils ne savaient ce qui se passait quand on se consacrait à Dieu et quand on ne l'était pas. Et nous, par qui avons-nous été marqués dans notre vie? Et plus important encore, quelle empreinte laissons-nous sur notre entourage? Sur nos enfants particulièrement. Quels fondements leur offrons-nous pour construire leur vie? Les équipons-nous pour affronter victorieusement les épreuves de leur vie et leur donnons-nous envie de marcher en tant que disciples de Christ? Bien sûr, il serait trop simple, j'en conviens, de dire que nous sommes responsables du rejet ou de l'accueil de la foi par les autres et par nos enfants notamment. Mais il n'empêche que l'exemple des aînés est souvent une source d'inspiration importante pour les jeunes, soit en bien, soit en mal. Ainsi, offrons-leur le maximum d'atouts en vue de leur salut et de leur bonheur, sans oublier qu'il leur faudra faire des choix dont ils seront seuls responsables. À nous d'être des Josias et non des Manassés, en donnant envie à ceux qui nous entourent d'appartenir sans réserve au Christ et de revêtir toutes les armes de Dieu. Elles seules peuvent leur permettre d'affronter victorieusement les épreuves qui les attendent dans la Babylone de notre temps. Ainsi nourris de l'exemple de Josias, conscient que Dieu est Seigneur, qu'il contrôle tout, Daniel résolut de ne pas se souiller. Il a fait son choix, aussi difficile, aussi risqué soit-il, il ne veut pas se souiller. Et cette prise de décision de Daniel nous permet de mieux comprendre ce que signifie être saint. Sans faire le tour de la question, son attitude va nous permettre de lancer quelques pistes de réflexion. Daniel résolut de ne pas se souiller. Alors, être saint, c'est l'opposé d'être souillé. La sainteté, c'est la séparation avec tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. La sainteté n'est pas une espèce de faveur que nous pourrions recevoir une fois pour toutes, mais une conquête par étapes progressives. Le sang de Jésus versé à la croix est efficace pour nous purifier continuellement et l'Esprit Saint met tout en œuvre pour que se développe en nous cette vie de sainteté. C'est la sanctification. Nous sommes appelés à nous sanctifier. Et qu'est-ce qu'un saint ? Eh bien, c'est un homme ou une femme limpide, traversée par la lumière, qui refuse les péchés et qui n'accepte pas les compromis. Aujourd'hui, pourtant, la vérité révélée est progressivement abandonnée au nom de l'opportunisme, du pragmatisme, du sentimentalisme et des autres ismes qui sont destructeurs et qui peuvent nous faire tomber dans des négociations et dans des clivages dont nous sortons toujours perdants. Daniel et son équipe montrent qu'ils refusent des compromis et qu'ils ne veulent pas laisser l'esprit babylonien s'immiscer dans leur cœur. Comme eux, nous pouvons et nous devons interdire aussi au péché de venir se nicher en nous. La version que j'ai utilisée ne le montre pas, mais d'autres le montrent. La décision de Daniel est née dans son cœur. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. La vraie sainteté ne peut prendre sa source que dans un cœur changé, lavé, purifié par le sang de Jésus à Golgotha. La sainteté commence au plus profond de nous, pour se traduire par des actions en conformité avec les enseignements et les commandements révélés par Dieu, jusqu'à ce que l'extérieur soit semblable à l'intérieur. Si notre cœur n'est pas visité, régénéré, purifié, et que le Seigneur n'y règne pas, alors nous ferons inévitablement de mauvais choix. En prenant cette résolution dans son cœur, Daniel montre sa profonde préoccupation de pureté spirituelle, morale et physique. Parce que Dieu est saint, pur, séparé, différent, il est décidé aussi à l'être. Mais ce n'est pas sur le péché que se focalise sa pensée. Non, sa pensée, elle se focalise d'abord sur Dieu. Il n'est pas obsédé par l'idée du péché. Non, il aime Dieu. Il veut le glorifier en toutes circonstances et la suite de son histoire le montrera. Ainsi, la sainteté, c'est un regard non sur le péché d'abord, mais un regard permanent sur Jésus-Christ qui me transforme par sa vie triomphante. C'est dans tous les domaines de la vie que nous sommes appelés à être consacrés au Seigneur, donc différents du monde. Nous progresserons ainsi en étant toujours plus à la ressemblance du Christ. Une résolution à ne pas se souiller aujourd'hui peut orienter tout le cours de ma vie à venir. Ce chapitre se conclut en disant que Daniel fut ainsi jusqu'à la première année du roi Cyrus. En fait, ça signifie que cette résolution l'a amené toute sa vie à rechercher la sanctification et la consécration à son Dieu. En même temps, ses trois amis l'ont suivi, mais en leur temps, eux aussi, au risque de perdre leur vie, ils ont pris position fermement devant Nebuchadnezzar, au risque de finir dans un bûcher ardent. Mais ils l'ont fait. Et ils n'ont pas hésité à défier Nebuchadnezzar en personne pour mieux voir la gloire de Dieu éclater. Mais la sainteté n'est pas une attitude rigide qui pousse à devenir légaliste. La démarche de Daniel pour mettre cette résolution en pratique, eh bien, elle est remplie d'amour, en fait. Il ne juge pas. Il ne dit pas, oh, les autres, eux, ils vont faire comme ci ou comme ça, moi non. Il ne méprise pas. Il est modeste, respectueux. Il ne cherche pas à imposer sa résolution aux autres. Il supplie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il sait qu'il lui fait courir des risques. Alors il lui propose une solution pour que sa décision ne soit pas, eh bien, une occasion de chute pour le chef des eunuques. Avec amour et avec tact, il touche son cœur au lieu de le braquer. Il marie ainsi pureté et amour dans son comportement. L'asteté est faite de cet alliage, pureté et amour. Or, à quoi nos semblables reconnaîtront-ils que nous sommes chrétiens, différents? Nous accueilleront-ils comme des ambassadeurs d'un royaume de lumière et de vérité? Eh bien, c'est grâce à une qualité de vie quotidienne qui confirme toutes les belles paroles que nous pouvons invoquer que nous toucherons notre famille, nos voisins, notre entourage. Le chef des eunuques a accepté de les tester pendant une période à l'issue de laquelle ils avaient meilleure mine que les autres. Pourquoi ? Certes, c'est vrai, ils avaient mangé plus sainement, probablement, puisqu'ils avaient mangé des légumes, mais avant tout, leur meilleure mine venait d'une beauté intérieure, d'une beauté qui émanait de leur être profond, de cet être profondément ancré en Dieu. La dépendance confiante et humble en un Dieu saint, parfaitement juste et plein d'amour, peut avoir de merveilleuses répercussions sur la vie physique et morale. Mais l'orgueil ambitieux, l'envie, la jalousie, la colère, l'insatisfaction et un esprit de revendication comme l'ont peut-être eu d'autres jeunes gens qui avaient été amenés à la cour de Nebuchadnezzar, eh bien devaient eux les ronger et de l'intérieur et leur donner moins bonne mine. Pour conclure, je dirais que Daniel était un homme sauvage comme nous, dans sa nature. Très tôt, il s'est laissé apprivoiser par Dieu. Il s'est habitué à cheminer avec lui, à le contempler et à prier. Il a appris de manière confiante et paisible à vivre sous son regard. Dieu a pu ainsi librement développer en lui la beauté d'une vraie sainteté, alliage fait de pureté et d'amour. Qu'il puisse le faire aussi alors en nous. Nous aussi, laissons-nous apprivoiser par Dieu, et ceux qui nous entourent pourront ainsi voir aussi la différence. Je vous invite à prier.